L'avenir de l'Europe se joue-t-il à l'Est? Les ministres du Travail de l'Union européenne réunis lundi à Luxembourg ont conclu un accord sur la révision de la directive du travail détaché de 1996 qui faisait l'objet d'intenses négociations depuis plusieurs mois. On va parler de cela avec vous, Jacques Rupnik. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, le CERI. Vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et orientale et vous avez notamment publié Géopolitique de la démocratisation. Mais avant de parler des travailleurs détachés, l'autre actualité pour cette région, c'est l'élection en Tchéquie. Andruš Babiš, je le prononce probablement très mal, sera le prochain président tchèque, vraisemblablement deuxième fortune de ce pays. Cet homme est baptisé le Trump tchèque, ce qui n'est pas, faut-il le préciser, un compliment. Et il y a quelques années, de 1989 à 1992, le président tchécoslovaque se nommait Václav Havel, un écrivain, un homme de théâtre, un penseur du politique, modéré en tout, un homme sage, et on l'écoute.
La Tchécoslovaquie, après avoir s'être libéré du système totalitaire, et après s'être libéré de sa situation satellitaire, de façon analogue comme les autres pays de l'Europe orientale et centrale, est en train de chercher sa nouvelle patrie, sa nouvelle place en Europe, et voudrait devenir partie intégrante et régulière de l'Europe démocratique et des États indépendants. Voudrait faire partie donc de cette famille d'États indépendants.
La voix de Václav Havel. Et finalement, la question qu'on pourrait se poser, Jacques Rupnik, aujourd'hui lorsqu'on voit les tentations populistes, lorsqu'on entend Havel défendre l'idée européenne, c'est d'essayer de comprendre comment en un quart de siècle, on est passé de Havel, qui était encore une fois un homme éclairé, à Babiš. Vous allez nous le présenter, vous allez nous dire ce que vous en pensez, ce que l'on peut se faire comme opinion à ce sujet. Comment passe-t-on de l'un à l'autre ?
C'est le passage d'un moment d'euphorie. Les révolutions produisent comme ça des moments exceptionnels où des personnalités qui n'avaient pas en principe de destin politique sont propulsées sur le devant de la scène. Et c'est ce qui est arrivé à un écrivain, un dramaturge, mais qui était aussi un dissident, qui a fait quelques années de prison pour ses convictions et pour la défense des droits de l'homme, et qui, dans le contexte de l'effondrement du système soviétique, a été propulsé sur le devant de la scène. Il est resté président pendant 13 ans, mais il faut bien savoir que la dissidence, ou ses amis de la dissidence, eux, ont été très vite éclipsés politiquement. D'abord par un économiste, Václav Klaus, qui a fait la transition à l'économie de marché. C'était lui qui avait le pouvoir comme premier ministre. Et aujourd'hui, on a un vainqueur des élections tchèques. Il n'est pas encore intronisé. Il sera sans doute premier ministre. Il a gagné avec 30% des voix. Un entrepreneur qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, qui a ensuite acheté des médias et qui ensuite s'est lancé dans la politique. Alors c'est pour ça que je parle de populisme entrepreneurial, parce que comme Trump, il a amassé une fortune. Comme Berlusconi, il a acheté des médias. Et dans un troisième temps, il crée son entreprise politique. Et son entreprise politique, elle n'avait pas de programme précis. Le parti s'appelle ANO, c'est-à-dire oui. Mais il ne dit pas oui à quoi. Parce que ça veut dire oui à lui. Et c'est centré sur sa personne, ni droite, ni gauche, ni centre, ni... Il est dans la lutte, soi-disant, anticorruption, contre le système, contre les partis, et c'est centré sur sa personne.
Bon,
et ça a marché.
J'imagine que vous avez quand même une idée, Jacques Rupnik, sur son programme, ou en tout cas la manière dont celui-ci entend gérer le pays.
Je crois qu'il ne changera rien parce que le pays se porte très bien, merci. La République tchèque est en plein boom économique, ils ont 4% de croissance, c'est le chômage le plus bas d'Europe, 3%, ils ont besoin de main d'œuvre. Et elle vient surtout d'Ukraine maintenant. Et donc, vous avez un gouvernement sortant avec un premier ministre social-démocrate qui a un bilan qu'en viraient tous les gouvernements européens et qui se retrouve avec un tiers des voix qu'il avait avant. Autrement dit, c'est pas l'économie l'explication. L'explication, c'est qu'il y a une inquiétude sur la situation en Europe. La crise migratoire a été un révélateur.
Pourquoi ? Pourquoi parle-t-on autant de la crise migratoire dans ces pays d'Europe ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui fait qu'en Hongrie, en Pologne et aussi, donc, comme vous êtes en train de l'expliquer, en République tchèque, eh bien la question migratoire fait et défait les élections ?
Je pense que c'est une question, une interrogation sur l'identité et la peur, la déstabilisation par l'ouverture. Il y a eu la mondialisation et sa dimension économique. Ils en ont profité, ils sont intégrés dans l'Union européenne et l'Europe a été l'instrument de cette mondialisation, de leur intégration dans l'économie mondiale. L'ouverture des frontières, ils ont bien sûr apprécié après la chute du mur. Vous êtes enfermé pendant un demi-siècle, vous avez envie de sortir, c'était évident. Mais là, ce à quoi on a assisté en 2015, c'est-à-dire la vague migratoire qui est passée de Turquie par les Balkans vers l'Europe centrale, vers la Hongrie, c'est là que Orban a décidé de construire sa clôture. Et l'idée de l'Europe centrale comme rempart, comme protecteur de la civilisation européenne, ça c'est quelque chose qui résonnait en Europe centrale. Nous avons résisté autrefois aux Ottomans, puisque les migrants ont emprunté la route ottomane, donc ça résonnait. Nous avons résisté sous le système soviétique au totalitarisme venu de l'Est. À nouveau, nous avons défendu la culture et la civilisation européenne. Et aujourd'hui, je crois que c'est un registre sur lequel les populistes en Europe centrale peuvent gagner des élections.
On va reparler des résonances historiques, Jacques Rupnik, parce qu'il me semble que c'est particulièrement important pour comprendre cette région, ces pays d'Europe, à la différence de la France, de l'Italie ou même de l'Espagne, ont connu de nombreux soubresauts géographiques avec le communisme, avec également l'éclatement des empires. Donc, on va en reparler, mais vous avez parlé du niveau de chômage en République tchèque et il y a là aussi un thème qui résonne avec notre actualité en France et notamment les propos et les décisions d'Emmanuel Macron, c'est la question des travailleurs détachés avec un accord qui a été trouvé en début de semaine par les ministres du Travail de l'Union européenne. Que dire sur ces travailleurs détachés qui viennent notamment de Pologne, mais pas uniquement ?
Il faut dire que au lendemain de 89, ces pays étaient dans un état économique assez désastreux, la plupart d'entre eux, et que une façon d'accélérer le rattrapage, c'était à la fois des investissements occidentaux qui venaient là-bas et aussi la possibilité pour des travailleurs de ces pays de venir travailler en Europe occidentale. Au passage, il y a 1 million de Polonais qui travaillent en Grande-Bretagne. En France, il y a eu la grande peur du plombier polonais que certains ont essayé d'exploiter pour faire capoter le référendum sur la Constitution européenne en 2005. On oublie ça. Donc, parfois, c'était une crainte réelle. Parfois, c'était de la fiction. Mais c'est vrai qu'il y avait pour des entreprises la possibilité d'embaucher des travailleurs d'Europe de l'Est dans des conditions qui correspondaient à leur pays d'origine et non pas au pays dans lequel ils travaillaient. Donc ça, c'était une situation qui n'était pas acceptable, qui nourrissait le sentiment anti-européen en Europe occidentale, en France en particulier. Et c'est une excellente chose qu'on ait pu surmonter cela. Je dois dire, on l'a fait avec la coopération de certains gouvernement d'Europe centrale, parce que évidemment, pour modifier cette directive, il faut que les partenaires européens soient d'accord. Le président Macron avait d'ailleurs, pendant l'été, eu une rencontre avec le premier ministre tchèque, le premier ministre slovaque, qui se sont rencontrés à Salzbourg, en Autriche. Et là, il y a eu les premières amorces de cet accord. Et je crois que on a sorti la question la plus difficile, celle des chauffeurs de camions.
Jacques Rupnik, justement, pourquoi c'est une question difficile, pourquoi il y a une exception qui a été faite, qui a un peu surpris tout le monde, il faut aussi le dire.
Il y a une difficulté, c'est-à-dire que le chauffeur de camion, est-ce qu'il ne fait que transiter, il reste sur le territoire français, est-ce qu'il fait pendant par exemple son séjour en France, est-ce qu'il fait d'autres course en quelque sorte pendant son séjour, et tout ça serait comptabilisé avec des salaires et des charges sociales de son pays d'origine. Voilà, c'est une question difficile, et aussi là c'était pas seulement un pays ou deux qui étaient concernés. Pratiquement tous les pays, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et donc, si on voulait trouver un consensus pour modifier cette directive hier, eh bien, il fallait faire des concessions à certains pays comme la Roumanie et la Bulgarie. Et on a sorti donc les chauffeurs de poids lourds de cet accord.
Et oui, parce que cette question n'est plus nécessairement celle du plombier polonais. Aujourd'hui, la Pologne n'est plus du tout dans une situation économique catastrophique.
Pas du tout. L'économie polonaise se porte bien. C'est le seul pays d'Europe qui n'ait pas connu la crise après 2008. Le seul qui n'ait pas connu la récession. Excellente croissance, plus de 3%. Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant, parce que quand on essaye d'expliquer la montée des populismes par la crise économique ou des choses comme ça, c'est pas très convaincant. Je dis que ça ne marchait pas pour la République tchèque, ça ne marche pas pour la Pologne non plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de disparité régionale, je ne dis pas que les fruits de la croissance sont bien partagé de façon égale. Bien entendu qu'il y a des inégalités, mais fondamentalement, vous ne pouvez pas avoir une explication économique. Je crois qu'il y a d'autres registres, comme celui que j'ai mentionné, les questions identitaires.
Alors c'est particulièrement intéressant pour la Pologne, puisque donc là, on a un président polonais qui est issu du parti Droit et Justice, Andrzej Duda. Il a été élu en 2015. Il fait partie de la droite nationaliste, très proche de l'Église catholique. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, puisque on avait l'impression qu'après donc la chute du régime communiste, la Pologne devenait de plus en plus un pays laïque. Alors on avait la puissance de l'Église catholique, mais elle était, semble-t-il, en diminution. Il y avait aussi un fond d'antisémitisme assez fort, et là, on pensait que tout ceci était en train de s'estomper, et puis on se retrouve finalement avec un gouvernement qui, par exemple, veut reprendre la main sur la Constitution, a différents mots assez durs sur la liberté de la presse. Qu'est-ce qui se passe, Jacques Rupnik ?
Je crois que, bon, il y a, une régression de la démocratie,
En
Pologne, mais aussi en Hongrie et dans d'autres pays, et qui essentiellement se situe sur trois niveaux. Le premier, c'est la régression par rapport à l'état de droit. On remet en question la séparation des pouvoirs, la Constitution et la Cour constitutionnelle comme arbitre. Pourquoi ? Et on ne le fait pas au nom d'un discours autoritaire. Non, c'est au nom de la démocratie, au nom de la volonté du peuple. Puisque le peuple s'est exprimé majoritairement dans les urnes, nous avons la majorité et nous ne devons pas, la souveraineté populaire ne doit pas être entravée par des institutions politiquement neutres qui sont là pour entraver sa puissance. Donc ça, c'est une première chose, c'est la volonté générale de Rousseau contre la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le recours à la nation, au nationalisme. Donc on passe du peuple à la nation, comme légitimation première du pouvoir. Et ça entre en conflit, pas seulement sur la question migratoire, mais ça entre plus généralement en conflit avec la construction européenne. C'est l'attachement à la souveraineté de la nation et de l'État-nation. Et on ne veut pas d'intrusion. Le Brexit a été salué dans un premier temps par ces pays, non pas parce qu'ils avaient l'intention de les suivre, les Britanniques, pour sortir de l'Europe, mais parce qu'ils voulaient rapatrier les pouvoirs au niveau des États-nations. Et puis un troisième thème qu'on pourrait appeler les guerres culturelles. C'est-à-dire que pays, Pologne, Hongrie, mais on retrouve la même chose en République tchèque. Il y a maintenant un clivage. L'Europe représente un libéralisme décadent. C'est des droits, la prolifération des droits individuels, mais aussi droits de certains groupes. Il faut des droits pour les femmes, pour les gays, pour les LGBT, etc., etc. Multiculturalisme, ça fait partie, voilà, droits des minorités. Et donc, il y a cette prolifération des droits que les libéraux, que l'Europe libérale défend, et de l'autre côté, il y a ceux qui défendent une certaine idée de la culture nationale qui serait menacée. Donc il y a des trois clivages qui se recoupent et ça fait un cocktail gagnant pour des élections.
Et pour ce qui concerne ce que vous appelez les guerres culturelles, Jacques Rupnik, on a vu se multiplier en Pologne des débats autour, par exemple, de la question de l'IVG, et autour de la question de l'homosexualité, alors même que la société polonaise, lorsqu'on l'observe, est a priori extrêmement occidentale, extrêmement libérale. C'est un peu cela le paradoxe.
Dans tous ces pays, il y a deux Pologne, comme il y a deux Hongrie, mais d'une certaine façon, il y a aussi deux France ou deux Amériques. Il y a l'Amérique de Trump et il y a l'Amérique de Hillary.
Mais vous avez la sensation qu'en France, par exemple,
on a vu aux élections présidentielles françaises que la moitié des Français avaient voté pour des candidats anti-européens. Et on a maintenant un président qui est super européen, très engagé sur la question européenne. Les pays sont divisés. Je dis ça pour dire il y a une Pologne des grandes villes, Pologne prospère, avec un milieu urbain, éduqué, qui est ouvert sur l'Europe. Et il y a l'autre Pologne qui, sur les questions d'ouverture et l'Europe culturelle, est beaucoup plus réticente. Donc, il y a cette division profonde et je crois qu'elle correspond à l'épuisement d'un cycle, celui qu'on a vécu depuis 89.
Quelques mots juste avant 8 heures sur le cas hongrois Jacques Rupnik, où là on a un Premier ministre, Viktor Orban, qui est à son poste depuis mai 2010, qui lui aussi a un discours extrêmement populiste. Et alors, en matière de guerre culturelle, il a trouvé un symbole à détruire, c'est l'université Soros. Un mot d'explication sur ce qu'est l'université Soros et pourquoi elle est devenue un emblème de sa guerre culturelle à lui.
Alors d'abord, faut pas l'appeler l'université Soros parce que Monsieur Soros a donné des fonds en 90-91. J'étais présent à la création de cette université. Il a donné des fonds pour la création d'une université, mais c'est pas lui qui a inventé l'université ou qui a créé l'université ou qui la gère. Monsieur Soros n'est pas un recteur d'université, c'est un financier qui est basé à New York. Donc l'université Soros est une université basée en Hongrie, qui avait une vocation centre-européenne au départ et qui est une université internationale aujourd'hui, enregistrée dans l'État de New York. Et elle est considérée par le régime Orban comme l'épicentre du libéralisme international, cosmopolite. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'à partir de l'université, et il y a une loi spéciale qui a été votée pour s'attaquer à cette université, en gros pour l'empêcher de fonctionner à l'avenir. Mais c'est la personne de Soros qui est devenue l'emblème de ce que veut combattre le régime Orban, c'est-à-dire la mondialisation, le cosmopolitisme, l'Europe multiculturelle. Voilà, ça c'est. Et il y a maintenant des affiches dans les rues de Budapest avec la photo de Soros, et c'est en quelque sorte l'homme à abattre. Mais l'université est un symbole, est un prétexte. L'université en tant que telle ne menace nullement le pouvoir de Monsieur Soros.
Jacques Rupnik, vous êtes directeur de recherche au CERI, Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. On vous retrouve aux environs de 8h20 pour continuer à évoquer la situation dans ces pays de l'Est. On va essayer de voir dans quelle mesure cette situation résonne avec le destin, l'histoire de ces pays. Et vous serez rejoint par la philosophe Chantal Delsol. Il est 8h sur France Culture.